Afrique, à votre avis, Nathalie Barge avec vous dans les studios de la Voix de l'Amérique à Washington. La justice française a condamné un marabout malien 15 ans de prison pour viol sur 9 femmes ouest-africaines en région parisienne. Il a aussi été condamné pour les avoir escroquées ainsi que d'autres personnes pour des dizaines de milliers d'euros. Il a utilisé leurs croyances pour les harceler et les menacer. Tous les jours, des milliers de personnes se font duper par des faux guérisseurs qui pullulent sur Internet et envoient de nombreux scams sur les réseaux sociaux, tandis que de bons tradithérapeutes voudraient pouvoir être reconnus pour leur connaissance de la médecine traditionnelle. Alors comment faire la différence entre un escroc et un bon guérisseur traditionnel? L'activité de tradithérapeute est-elle réglementée dans votre pays? Comment permettre aux tradipraticiens ayant fait leur preuve de pratiquer officiellement leurs activités? Pour en parler avec vous, nous avons notamment une invitée, Menga Chenot, franco-camerounaise, chamane et énergéticienne. Menga, merci beaucoup d'être avec nous ce soir.
Hello.
Vous m'entendez?
Allô?
Oui, Menga, merci beaucoup d'être avec nous ce soir.
Je n'entends rien du tout.
Menga ne m'entend pas. Voilà, moi je l'entends, mais elle ne m'entend pas. Donc Menga, restez bien avec nous, on va essayer, enfin, même si vous m'entendez pas, on va essayer de faire tout ce qu'on peut pour que vous puissiez m'entendre. Mais en attendant, ce qu'on pourrait peut-être faire, c'est justement écouter Joëlle Bilé, qui est une politicienne et journaliste en République démocratique du Congo. Donc elle tient à mentionner notamment la différence entre le marabout et d'autres formes de praticiens.
Moi, un marabout est avant tout censé être un homme de prière. Et ses clients, parce que ce ne sont pas des patients, les clients qui viennent le voir viennent pour obtenir de lui des orientations très souvent spirituelles, mais aussi des orientations liées à la terre. Et qui dit terre, dit les plantes. Ça ne fait pas d'un marabout un quelconque tradithérapeute, un quelconque phytothérapeute, un médecin, non. C'est comme si quelqu'un qui est censé apporter une réponse, on va dire virtuelle, très vite, il se transforme en illusionniste et l'illusion peut conduire à de l'escroquerie, comme ça a souvent été le cas aujourd'hui et c'est ce qui est dommage. Mais les phytothérapeutes bénéficient aujourd'hui d'une certaine reconnaissance de la part de l'État. Ils bénéficient des infrastructures qui leur permettent justement de travailler sur des principes actifs mieux dosés, mieux compris, mieux conditionnés pour finir. Et les produits sont vendus dans des grandes enseignes, pignon sur rue. Donc je suis tout à fait contre l'amalgame qui peut exister entre un marabout, qui aujourd'hui est pas très loin d'un charlatan, parce que personne ne le contrôle, tout est spirituel. Un marabout et un tradipraticien, un tradithérapeute, ça n'a absolument rien à voir. Pour chacun des secteurs, des lois devraient exister, parce qu'il est hors de question qu'on continue d'évoluer en électron libre.
Et donc, c'était donc Joëlle Bilé, qui est femme politique et journaliste en République démocratique du Congo. Je vais continuer d'essayer de parler à Menga Chenot. Est-ce que vous m'entendez à présent? Menga, est-ce que vous m'entendez? Elle ne nous entend pas, donc on va l'appeler d'une autre manière. Alors, il faut savoir que dans les pays en développement, 80% des populations sont tributaires de la médecine traditionnelle pour leurs besoins en soins de santé primaires. Et on sait donc que la médecine traditionnelle joue un rôle essentiel en Afrique, hein, où les guérisseurs sont souvent les prestataires de soins de santé les plus accessibles et en qui les membres des communautés ont le plus confiance. Alors, on peut écouter à présent un auditeur. Il est au Mali, c'est Haruna Kamisoko.
Aujourd'hui, on peut constater que de nombreuses personnes pratiquent ces domaines sans avoir la maîtrise. Beaucoup de personnes s'efforcent à pratiquer en escroquant les gens de façon illégale. Les guérisseurs traditionnels font la publicité à travers les radios, les médias et d'autres médias, même les réseaux sociaux, pour attirer les gens. Et les femmes sont les vraies cibles principales. On ne peut pas dire que les hommes ne fréquentent pas, mais ce sont eux qui sont majoritaires. Il y a des gens qui exercent dans le bon sens, mais il y en a d'autres qui le font de façon illégale. Donc l'État devrait prendre la responsabilité pour limiter ce genre de catastrophes dans notre société.
Voilà, donc c'était Haruna Kamisoko, un auditeur de VOA Afrique. Alors, on sait que la médecine traditionnelle est reconnue dans plusieurs États, notamment en République démocratique du Congo. Elle est reconnue également au Togo. Et en 2013, lors du comité régional de l'OMS pour l'Afrique, les ministres de la Santé ont convenu d'intégrer la médecine traditionnelle comme une option importante et viable pour améliorer la santé des populations. Alors, on essaie encore de joindre Menga Chenou. Voilà. On espère pouvoir lui parler bientôt, que elle et moi puissions nous entendre. On sait que l'OMS travaille sur la médecine traditionnelle et complémentaire pour mieux la comprendre, tout en veillant à sa sécurité et à son intégration dans les systèmes de santé modernes. Menga Chenou, est-ce que vous m'entendez à présent?
Allô?
Oui. Menga Chenou, est-ce que vous m'entendez?
Oui, je vous entends. Bonsoir.
Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mmh. Merci beaucoup d'être avec nous. Malheureusement, la ligne n'est pas parfaite. Ça ne fonctionnait pas sur WhatsApp. Donc, on va faire ce qu'on pourra. Alors, dites-nous, Menga Chenou, pourriez-vous... la première question, ça serait finalement celle-ci, là, la question du sujet. Comment faire la différence entre un escroc et un bon guérisseur traditionnel?
Bon, déjà, je me présente. Hein. Je suis médium de naissance. Et je pratique aussi la médecine naturelle et paranormale, bien sûr. Et comment trouver un escroc, c'est important. C'est facile, hein, parce qu'un escroc, un traduit praticien, qui veut soutirer de l'argent à des personnes qui sont assez fragiles, des personnes qui ont besoin, qui sont mal, et ben, c'est très facile. On lui promet de l'or et de l'argent et on soutient l'argent et puis rien ne se passe. Hein. C'est très très facile et c'est souvent des personnes vulnérables. Ouais. Des personnes qui ont peur de mourir, des personnes, voilà, mm-hmm. On t'annonce la mort et on te dit qu'on peut te soigner et tu vas pas mourir. Ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous allez aller. Hein.
Oui, mais il est souvent trop tard, hein, quand on se rend compte qu'on a affaire finalement à un escroc, dont Madame Menga Chenou. On pourrait écouter à présent une Congolaise, si vous le voulez bien, c'est Hortense Kavu Omaliro. Elle est femme politique et également défenseur des droits des personnes handicapées.
En République démocratique du Congo, la médecine traditionnelle est reconnue. Elle s'exerce dans le respect des lois et d'ordre public. La médecine traditionnelle est placée sous la tutelle du ministère et à la santé publique dans ses attributions. Et c'est la loi numéro 18/035 du 13 décembre 2018 qui fixe les principes fondamentaux relatifs à l'organisation de la santé publique. Et à son article 59, on précise que la médecine traditionnelle est reconnue en République démocratique du Congo. Et si nous allons à son article 60, on dit qu'un arrêté de ce ministère fixe les conditions d'exercice de la médecine traditionnelle, les droits et obligations des tradis praticiens. Si on allait encore plus loin à son article 61 de cette même loi, ça donne les dispositions des articles 56 et 57 qui doivent s'appliquer aux plantes même médicinales. Il faudrait seulement qu'il y ait l'applicabilité de ces dispositions pour que tous ces tradis praticiens puissent bien exercer leur travail.
Et voilà, c'était Hortense Kavu Omaliro. Alors Menga Chenou, vous avez entendu, hein, elle a bien décrit finalement le cas de la République démocratique du Congo, même à travers des lois. D'autres pays reconnaissent également la médecine traditionnelle de plus en plus. Et je crois que c'est le cas du Cameroun. Est-ce que vous voulez nous en parler?
Eh bien, écoutez, pour le Cameroun, nous avons le père fondateur, monsieur le professeur Oubarazak, qui a créé vraiment, qui est le président fondateur de ANTRASA, qui veut dire Association nationale des traduits praticiens de la santé et au Cameroun. Et puis en même temps, c'est un monsieur qui a beaucoup, beaucoup d'émissions à une télé qui s'appelle Télé Africa, souvent les dimanches soirs. Et avec l'accord de notre ministre de la Santé, Malachi Mamouda, eh bien, on a créé vraiment un pôle santé traduit praticien au ministère aussi. Donc, nous sommes reconnus et tout. Et en plus, il y a des écoles qui sortent, et bientôt des petites universités. Et nous avons aussi des banques scolaires, des fonds Caisse Solidarité et pour la médecine africaine. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est en train de monter. C'est quelque chose qui est en train de vraiment prendre la place. Et aujourd'hui, chez nous, les docteurs, eh ben, s'ils ne peuvent pas à l'hôpital, ils vous envoient directement chez un traduit praticien en accord. Donc, aujourd'hui, il y a le docteur, il y a le traduit praticien. Mais ce qui est important, c'est que chez nous, il y a quand même les règles. Il y a des traduits praticiens qui sont reconnus officiellement et qui ont quand même ce qu'on appelle un parchemin, donc des gens qui sont reconnus, quoi, un parchemin, un certificat ou qui sont connus par leur œuvre, par leur travail et par la véracité de ce qu'ils sont en train de faire sur le plan traduit praticien. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'escroqueries, beaucoup de malentendus, beaucoup de vols. Mais pour les reconnaître, il faut bien savoir qu'un bon médium n'est peut-être pas forcément un bon traduit praticien. Mais un bon médium peut voir le problème de santé et vous envoie chez un bon praticien. Mmh. Un bon praticien n'est peut-être pas forcément un bon médium, mais à force de développer ses capacités, peut devenir aussi quelqu'un qui peut ressentir le bien et le mal par rapport au problème de la santé.
Alors, Menga, on va revoir tout ça avec vous. Restez avec nous. On va écouter deux auditeurs à présent. C'est Alphonse Mbouaki, il est en République démocratique du Congo. Et tout de suite après lui, on ira au Togo pour écouter Fernandez Toyou. Donc d'abord Alphonse.
Moi, je pense que les États doivent mener une politique de collaboration entre les traduits praticiens et les médecins modernes et les pharmacies modernes. Dans ce sens que les produits des traduits praticiens soient reconnus par l'État pour être prodigués sur les patients. Deuxième responsabilité de l'État, c'est de sensibiliser la population, de ne plus se présenter chez tous les traduits praticiens, à moins que ceux-ci possèdent un papier d'homologation, de reconnaissance de l'État, que leurs produits ne sont pas nocif à la santé. Dans mon pays, les traduits praticiens travaillent en collaboration avec la médecine moderne. Au départ, ils étaient désapprouvés. Et aujourd'hui, ils travaillent ensemble et leurs produits sont mis sous emballage et leurs produits sont dosés. Ils sont reconnus par l'État. Et en dehors d'eux, ce sont des charlatans. Donc, il faut que les populations soient sensibilisées à aller vers des traduits praticiens qui sont reconnus par l'État.
Ces arnaqueurs-là qui se font passer pour des guérisseurs traditionnels est quelque chose qui nous crée des sérieux problèmes. Il ne se passe pas un jour où vous n'allez pas voir ces genres de trucs sur les réseaux sociaux. Et souvent, vous êtes confronté à ces genres de problèmes quand vous êtes administrateur. Des gens envoient du n'importe quoi par rapport à cette chose-là. Pour faire la différence, on doit formaliser ce métier-là. Il faut qu'on essaie de voir ceux-là qui font le travail correctement, qu'ils soient reconnus officiellement, comme c'est le cas des médecins et autres. Il faut que la médecine traditionnelle soit valorisée. Maintenant, on a du mal à reconnaître ceux qui font vraiment le travail et ceux qui sont là pour arnaquer. La pauvreté aussi est une cause. Quand on n'a pas de moyens, etc., ou bien quand on a un sérieux problème, vous le faites, mais finalement, vous n'avez rien. C'était Fernandez Toyou depuis ce côté du Togo. Merci de l'avoir.
Mengessa Chenot, j'ai dit tout à l'heure que vous êtes également chamane. Alors on connaît bien en Amérique du Nord effectivement le chamanisme qui est beaucoup pratiqué par les autochtones, les natifs américains depuis des millénaires. Alors la médecine moderne ne fait pas vraiment finalement en tout cas le lien entre l'esprit et le corps. Elle sectionne un petit peu tout par spécialisation. On a des spécialistes pour les pieds, pour le dos, etc. Et ce qui fait qu'on va avoir une multitude de spécialistes sans forcément que ces spécialistes communiquent entre eux. Alors vous-même, pourriez-vous nous expliquer un petit peu votre travail à travers le chamanisme et puis finalement la différence entre tout cela, ces thérapies vraiment ancestrales par rapport à la médecine moderne?
Écoutez, moi déjà, je suis chamane, donc guérisseuse africaine. Hein. Je suis métisse de mère suisse-allemande et de père camerounais. Et donc, j'exerce ma profession librement en France. Et lorsque je rentre dans mon pays paternel, je retourne aux sources et je vais voir dans la forêt avec des personnes. On m'enseigne aussi certaines plantes que je ne connais pas tout, hein. On n'a pas la science infuse, hein. Mais la différence, c'est qu'on communique, on travaille avec la terre. Vous savez, c'est important, nous sommes faits de terre. Ouais. Lorsque un chaman doit commencer à exercer un travail de guérison avec une personne, ça commence par la terre, ça commence par les ancêtres. On parle à nos ancêtres, on parle à l'esprit de la terre. On communique avec l'esprit de la terre, on les appelle, on fait des offrandes. On nous donne le moyen, on nous donne des réponses. Et avec ces réponses, on utilise les plantes qu'on nous a données pour soigner la personne qui est venue. Il y a d'autres personnes qui font comme ça, simplement, disent « je vous donne ça, je vous donne ça, allez faire ça ». Mais chez nous, les chamans africains, les chamans dans tout le monde entier, hein, parce qu'il y en a de partout, ou les tradis praticiens, en général, on a pour habitude de communiquer avec l'âme de la terre, avec l'eau, avec tout ce qui est en notre possession, afin de pouvoir sortir le meilleur de nous-mêmes et soigner, parce que chaque être qu'on puisse enlever et soigner ou guérir, si je peux utiliser ce mot, eh ben, déjà avant tout, on est déjà les premiers à être heureux, heureuses, parce que c'est pour nous, c'est une victoire.
Merci.
De pouvoir. Voilà.
Merci beaucoup, restez avec nous. On va écouter à présent la cinéaste guinéenne Isabelle Kolkolloa.
Dans la forme, il est assez compliqué, difficile de faire la différence entre un escroc et un réel guérisseur traditionnel. Parce que c'est lié à la spiritualité, il n'y a aucune rationalité. Lorsque on se trouve face à une personne, il n'y a pas un insigne qui montre que la personne est qualifiée ou pas. Il faut juste se fier à la parole de la personne. Et puis, l'Afrique particulièrement est très ancrée dans la spiritualité, dans certains types de spiritualité. Donc, il y a cette crédulité qui fait que les gens se rangent facilement derrière ce genre de personnes. Toutefois, il y a un petit détail qui peut interpeller quant à un escroc, parce que l'escroc, il en a après l'argent. Il veut s'enrichir tout de suite. Donc, on rencontre souvent des gens qui se disent guérisseurs traditionnels et qui demandent des montants faramineux en échange du service. Alors que le véritable guérisseur qui croit en son pouvoir de guérison, en son don, te dira d'amener le strict nécessaire pour rassembler ce qu'il faut pour ta santé. Et après, lorsque tu seras rétabli, tu viendras le récompenser. Et en Guinée, il y a une association des tradis praticiens. Mais ce qui amène aussi les gens vers les escrocs, c'est parce que puisque les membres de ces associations sont organisés, ils ont des cliniques de soins traditionnels, toutes ces conventions augmentent les tarifs de consultation, ça rend les procédés compliqués, un peu comme à l'hôpital. Donc les gens se rabattent sur les autres qui sont plus informels. Et bon, là, c'est le danger, il faut juste se fier, je crois, à son bon sens et puis faire attention.
Voilà, c'était Isabelle Kolkolloa. Et finalement, on évoque ici un problème relativement courant. On sait que lors de la réunion des Nations Unies sur la couverture sanitaire universelle en 2019, les chefs d'État et de gouvernement ont reconnu la nécessité d'inclure des services de médecine traditionnelle et complémentaire dans les soins de santé primaire pour parvenir à la santé pour tous. Alors, Menga Chenou, je reviens sur le chamanisme, un sujet passionnant. Oui. On met beaucoup l'accent sur la vie en communauté. Et on sait qu'aujourd'hui, hein, c'est l'individualisme qui prime un petit peu partout, de plus en plus. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu finalement quel est l'avantage de cette manière de vouloir traiter la personne à travers la communauté elle-même ?
Vous savez, on dit toujours que les cinq doigts de la main ne sont pas pareils. Et puis, si j'ai quelqu'un et que je dois vraiment soigner et que je vois que j'ai pas les capacités pour compléter les soins, je fais appel à la communauté. Et la communauté est là pour nous aider. Chacun apporte sa puissance, sa force, sa connaissance. Et puis, ça donne toujours quelque chose de bon. Sans égo, bien sûr, parce que il y a beaucoup, beaucoup de tradis praticiens qui ont beaucoup d'égo aussi. Et puis, reconnaître les escrocs, c'est aussi en même temps difficile, mais c'est aussi facile, parce que, comme on disait tout à l'heure, c'est important de réaliser, parce que dans la communauté, il y a toujours un qui va sortir, ah ben non, c'est pas correct comme ça, c'est correct comme ça. Il y a des conseils, on prend des témoignages, il y a plein de choses qui se passent comme ça. Bon, personnellement, Je travaille un peu en communauté, mais je travaille aussi un peu seule. Parce que je suis en France, je ne suis pas en Afrique. Et en Afrique, souvent, je travaille un peu en communauté avec ma famille, des gens que je connais, des gens sur qui j'ai confiance. Mais pas avec tout le monde, parce que je n'ai pas confiance en tout le monde. Donc, c'est un métier, ou c'est un travail, ou c'est un don. De l'autre côté, il faut faire très attention de ne pas s'emporter, de ne pas avoir la grosse tête afin de pouvoir escroquer les gens, de rester toujours humble. L'humilité est la première chose qu'on doit respecter et soigner et pouvoir peut-être après laisser la personne nous donner ce qui est bon pour lui. La façon qu'il peut nous donner, ça peut être nous offrir quelque chose, peut-être des légumes, peut-être à manger, peut-être une poule, peut-être lui-même vient nous donner quelque chose, un cadeau, parce que cette personne est guérie, et là, cette personne sort d'un danger, et il reconnaît, et c'est cette personne qui va porter la parole.
Merci.
C'est cette personne qui va raconter.
Absolument. Menga Chenou, restez avec nous. Je voudrais qu'on écoute à présent, pour terminer, Caroline Pindi qui est en RDC. Et tout de suite après, on écoutera Marie-Louise Musenga qui est également en République démocratique du Congo.
C'est très difficile de démêler les vrais du faux parce que tous prétendent être des très bons tradipraticiens. Mais lorsque j'observe un peu chez nous, en RDC, toutes ces personnes-là qui font de la phytothérapie, ce n'est pas des personnes qui se vendent sur les réseaux sociaux. La plupart sont très discrets parce qu'en fait, ils savent que comme la population ici est à majorité chrétienne, ils sont jugés et ils sont mal vus. Alors, ceux qui font leur publicité sur les réseaux sociaux, je pense que ce sont des personnes justement dont il faut se méfier. Parce que les tradipraticiens qui travaillent vraiment pour le bien de la population, c'est vraiment l'information, tu l'as de bouche à l'oreille. Alors il faut vraiment que les gens fassent très attention pour qu'ils ne se laissent pas berner. Déjà les réseaux sociaux, dedans il y a à boire et à manger. L'idéal serait vraiment de faire des recherches ailleurs. Si tu connais une personne qui pourrait fréquenter ces gens-là, qu'ils t'emmènent et qu'il y ait en fait des traces qui pourraient montrer justement que tu es allé à tel endroit et que tu as travaillé avec telle personne, qui a déjà fait ses preuves, pas seulement se fier à la publicité qui passe sur les réseaux sociaux.
La question aujourd'hui des arnaques ou bien des harcèlements sur les réseaux sociaux commence à battre son plein, pas seulement dans l'Afrique, la partie de l'Afrique de l'Ouest, mais presque partout dans le monde et même dans notre pays. Plusieurs marabouts, féticheurs, guérisseurs sur les réseaux sont en train de voler, d'escroquer, d'abuser de la confiance de plusieurs femmes qui sont naïves. Dans notre pays, la loi sur la reconnaissance des tradis praticiens est là. Ceux qui travaillent dans les normes sont reconnus. Ils ont l'ordre. Ils fonctionnent dans leur regroupement et n'ont pas de problèmes. Mais à côté de là, il y a aussi des éléments isolés. Aujourd'hui, ces mêmes arnaqueurs de l'Afrique de l'Ouest aussi pullulent dans les réseaux et plusieurs femmes sont en train de tomber dans leurs mailles. Alors, celui qui veut bien exercer son métier doit passer par l'ordre, c'est-à-dire par être reconnu. Et l'État doit sanctionner s'ils sont reconnus comme éléments isolés, arnaqueurs, en train d'abuser des autres. Ils doivent changer de métier s'ils ne le peuvent pas. S'ils veulent de leur métier, ils doivent se faire enregistrer à travailler légalement dans les normes pour le respect d'abord de la dignité humaine, le respect aussi de la personne, la cliente, le respect aussi du pays dans lequel on est en train d'évoluer.
C'était Marie-Louise Musenga. Elle est en République démocratique du Congo, à Lualaba. Menga Chenou, pour terminer rapidement, je voudrais profiter de votre gentillesse pour vous demander un conseil, comment avoir une vie plus spirituelle et moins matérielle.
Déjà, il faut apprendre à s'aimer, avant tout. Parce que à partir du moment que vous apprenez à vous aimer, vous, c'est le début d'une très bonne spirituelle. C'est le début de vraiment la reconnaissance de l'être que vous êtes. C'est le début de quelque chose de formidable. Parce que personne ne peut mieux vous donner de l'amour que vous-même. Et par la suite, lorsque vous grandissez dans cet amour, vous êtes en éveil. Vous avez ce qu'on appelle la conscience en éveil. Et ça, c'est important. Et chaque fois que vous allez faire quelque chose en conscience, vous éveillez votre propre spiritualité. On vous appelle à la méditation, à la prière, à aimer ce que vous êtes, vous, afin de pouvoir mieux aider votre amour envers les gens. Voilà.
Merci beaucoup, Menga Chenou. C'était vraiment un grand plaisir de vous avoir avec nous. Un grand merci à Firmin Max Koyaweda, à la production. Merci à vous toutes et à vous tous pour avoir écouté votre avis. Avec vous, c'était Nathalie Barge. Restez sur VO Afrique pour la suite de nos programmes. Bonne soirée et bon courage.